Bonjour et bienvenue à tous pour notre nouveau podcast Super Physique. Je suis aujourd'hui avec le magnifique, le séduisant, le musclé, le rutilant Rudy Koya.
Ah, de pire en pire cette présentation.
Salut Rudy.
Salut Julien. Et donc tu es Julien Vénesson, auteur du livre La Nutrition de la Force. Et donc, magnifique, blond vénitien. Et tu as aussi également un chat roux.
Tout à fait. Alors on va partir en beauté. Aujourd'hui c'est moi qui vais animer le podcast parce que maintenant tu te fais vieux.
Bah oui, je suis plus tout jeune. Quel âge ça d'ailleurs, Julien?
Ah bah moi c'est à 3 chiffres.
Ah hein. Oh, merde. Ouais. Bah, grâce à tous les suppléments que tu prends, j'ai entendu tout à l'heure la grenade, la cérola et la spiruline. Tu es tricentenaire.
Exactement. Alors on va parler un petit peu d'actu. Il paraît que tu vas bientôt recevoir le t-shirt pour Akuma, le t-shirt.
La question est même pas notée, alors n'importe quoi. Donc j'en ai pas. Fabrice vient de rentrer de vacances, donc je vais lui en parler.
D'accord.
Donc ce sera fait lundi. Donc je vais lui en parler pour faire un petit t-shirt pour Akuma. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs messages de personnes qui m'engueulaient pratiquement de pas avoir fait de t-shirt pour Akuma.
C'est bien, continuez.
Donc c'était drôle. Donc sinon sans rire. Donc nous recevons les serviettes et les sacs à dos super physiques sont partis hier de l'entrepôt. Ah. Donc on va les recevoir, j'espère, normalement, qu'ils seront en vente début semaine prochaine. Donc dès que je les ai, de toute façon, je ferai des photos avec un joli sourire, comme d'habitude. Puis après, bah, ce sera parti. Je sais même pas encore combien ça va se vendre, mais pas très cher, de toute façon. Hein. Je pense que ça va même pas coûter, même pas 10 euros. Hein. Donc voilà, donc on les reçoit. Et on est en train de préparer le premier concours du club super physique. Donc je dis pas sur quoi c'est pour pas qu'on nous pique l'idée. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein qui lancent des concours et puis ça suit pas. Donc ce sera réservé aux membres du club. Donc faudra avoir un t-shirt super physique ou un débardeur. Enfin bon, c'est pas compliqué. Il y en a plein sur la boutique. Et donc il y aura comme d'habitude plein de choses à gagner. Donc ce coup-ci, il y aura même un banc à gagner d'une valeur de 400 euros qui sera offert par notre sponsor matériel, PowerTech.
Ah bah ils sont sympas, PowerTech.
Ouais, donc ils offrent un banc à 400 euros et puis on met en jeu. Puis on met environ, je sais plus combien on a mis, 500 ou 600 euros de supplément qu'on va donner. En plus de vêtements super physiques, d'e-books gratuits aussi.
Ah ouais.
Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses à gagner. Donc là, j'attends l'affiche. Mon graphiste, normalement, devait la faire dans la semaine, donc j'attends. Et donc après, bah, je lancerai ça, donc j'espère, semaine prochaine. Donc après, bah, on va pouvoir s'amuser tous ensemble. Donc voilà pour les news de cette semaine. Julien, est-ce que tu avais des news?
Bah écoute, non, rien de particulier, hein. Tout va bien. Alors, on va peut-être démarrer avec les questions. On a une première question de je ne sais pas trop qui d'ailleurs, diététique, donc c'est pour moi. Est-ce que le fait de prendre des produits laitiers, peu importe la forme, au cours d'un repas contenant des glucides à faible IG, casse le bénéfice recherché par la prise de glucides à faible IG? Pour ceux qui n'ont rien compris à cette question très mal formulée... On a d'une part, non mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre du premier abord. On a les protéines laitières qui ont tendance à provoquer, à stimuler la production d'insuline. On dit qu'ils ont un index insulinique qui est élevé. Et nous, d'une manière générale, on essaye de consommer des aliments à index glycémique bas pour tout un tas de raisons, des raisons de santé, de performance.
Donc principalement ne pas augmenter donc l'insuline.
Voilà, donc toutes les raisons de ça sont détaillées sur le forum, dans les articles du site et puis dans mon bouquin. Et donc, y a des gens qui se posent la question, est-ce que si je prends des produits laitiers qui stimulent la production d'insuline en même temps que des index glycémiques bas, est-ce que ça va pas annuler le bénéfice des index glycémiques bas? Alors, effectivement, oui, c'est fort probable qu'il y aura une diminution du bénéfice des index glycémiques bas. Mais cette diminution du bénéfice ne sera pas totale parce que contrairement à quand on mange un index glycémique élevé, les glucides à index glycémique bas restent à index glycémique bas dans le sens où ils ne se digèrent pas plus vite. Donc on va avoir certes une petite production d'insuline, mais on n'aura pas simultanément autant de glucides dans le sang qui vont arriver. Donc ça va pas avoir exactement le même impact. C'est pas aussi bien effectivement que s'il n'y avait pas les produits laitiers en même temps. Mais c'est moins pire que si on mangeait que des index glycémiques élevés.
Donc idéalement, ne pas manger de produits laitiers, Julien.
Bah après, comme je dis toujours, on me pose la question sur le forum, ça dépend de ce qu'on recherche comme objectif, ça dépend de son état de santé et de ce qu'on veut, quoi. Si on veut viser absolument la santé, à tout prix, il faut essayer de limiter la consommation de produits laitiers, ça c'est certain, dans le sens où il existe des doutes sur l'innocuité des produits laitiers à forte dose. Et puis pour certaines personnes, c'est probablement mieux aussi de les éliminer complètement. Mais bon, après tout le monde n'a pas forcément l'envie de le faire, hein, ce que je peux comprendre.
Non, attends, j'ai plus le droit de mettre du parmesan sur mes pâtes.
Bah, ça t'a rendu énorme, alors tu peux.
Mais je suis peut-être déjà mort et je le sais pas.
Tu mets du parmesan sur tes pâtes?
Non, je dis ça parce qu'avant j'en mettais quand j'étais gosse, quand je faisais des compètes de force. En fait, je mettais plus de parmesan que de pâtes, donc ça rendait vachement fort. Ça rendait vachement fort, puis c'était vachement bon. Puis après j'ai arrêté, j'ai vu que quand j'arrêtais les produits laitiers, bah c'était mieux en fait.
C'était mieux.
J'étais pas plus fort, mais j'étais plus beau.
Ah, c'est-à-dire?
Bah, j'avais moins de boutons, ça, la peau était plus belle, et puis tu te sentais pas mort après le repas, t'avais pas une grosse poussée donc d'insuline, t'étais pas mort quoi. Alors d'habitude tu fais un gros repas et tu manges du fromage et tout à la fin, après t'as juste une envie, c'est de dormir quoi.
Ah oui, bah alors donc là, bah ça c'est l'hypoglycémie qui va suivre, effectivement, c'est un bon exemple de ce qu'on vient d'expliquer sur les produits laitiers. Ouais, tout à fait.
T'as vu l'expérience?
Impossible. Alors une question pour toi, Rudy, homme d'expérience. Comment modifier son training lors d'une tendinite épaule brachiale?
Donc c'est un sujet que j'ai déjà traité, je sais pas si j'ai traité sur Superphysique, mais en tout cas sur mon site Père Perso. Donc c'est très simple. Donc si on a une tendinite, donc il y a plusieurs stades un peu, je peux parler aussi en connaissance de cause, hein, je suis un peu un spécialiste des tendinites. Donc il y a plusieurs causes. Donc il y a la tendinite qui quand on s'entraîne, ça passe, elle chauffe, le tendon chauffe et on la sent beaucoup moins, on la sent vraiment qu'à l'arrêt. Donc dans ce cas-là, on peut s'entraîner sans souci si elle passe à l'entraînement. Par contre, il y a la tendinite qui est bien incrustée, c'est celle qui, malgré la chauffe, elle va pas passer et elle va justement s'accentuer au fur et à mesure des séries. Donc là, c'est une tendinite un peu chronique qui est déjà bien incrustée. Et donc là, dans ce cas-là, faut éviter tous les exercices qui font mal. Donc je sais que ça peut être un peu chiant, c'est un peu crève-cœur d'enlever des exercices qu'on a envie de faire et puis qu'on ne doit pas faire pour pas avoir mal. Mais donc, faut vraiment que le tendon ne soit plus enflammé pour qu'il puisse guérir. Donc, éviter tous les exercices qui vont tirer dessus, tous ceux qui vont en fait accentuer la douleur. Donc, si un exercice n'accentue pas la douleur ou ne sentez même pas le tendon, c'est bon, vous pouvez le continuer. Mais tous les autres qui vont accentuer la douleur, faut les éviter un certain temps, donc au moins 2, 3, 4 semaines. Donc, sinon, vous allez vite voir si vous avez mal ou pas. Personnellement, j'ai quelques exercices tests à chaque fois. Quand j'ai une tendinite, pour savoir si le tendon est réparé ou pas. Mais donc voilà, éviter tous les trucs. Ça sert à rien de s'acharner dessus. Alors là, c'est le pire à faire, mais bon. Faut bien dire, on est assez con. Hein. Quand on fait de la muscu et puis qu'on a mal, on se dit bon, bah, on va forcer dessus. Et bah non, ne forcez pas, parce qu'après, ça ne part plus. Ça part de moins en moins. D'accord. Donc voilà, donc éviter tous les exercices qui font mal pendant quelques semaines. Continuez à vous entraîner, surtout pas d'arrêt complet. Ça sert à rien. Ça va pas faire du bien non plus. Donc ouais. Voilà, éviter, puis après reprendre progressivement. Puis si jamais, bon bah si une tendinite est incrustée, voire pour faire des ondes de choc, voire pour infiltrer au pire des cas, etc. Mais donc voilà, c'est toujours la règle de la non-douleur qui prime.
D'accord, très bien. On va passer donc maintenant à une question diététique.
Donc il y a deux questions, Julien, en plus j'en ai mis.
Il y a deux questions de la même question.
Il y a des questions de la même question, parce que c'est la même personne, alors j'ai mis les deux.
D'accord. Alors, première partie.
Donc, c'est une petite personne de 85 kilos qui pose la question.
Ah oui, d'accord, ok. Y aurait-il un risque à surconsommer des protéines en poudre? Entre parenthèses, 180 grammes par jour.
Sachant qu'il prend 200... Il prend exactement 220 grammes de protéines par jour, je crois, au total, tout cumulé. Parce qu'il fait... Il a dit qu'il prenait 2,5 grammes de protéines pour 85 kilos.
C'est un peu trop de protéines déjà, donc il faudrait mieux de réduire un peu, parce que là ça sert à rien. Et ensuite, 180 grammes de poudre par jour, y a-t-il des risques à consommer 180 grammes de poudre, en elles-mêmes, les poudres ne présentent pas plus de danger que les produits laitiers en tant qu'aliments, puisque c'est exactement la même chose, hein, c'est juste déshydraté. Mais consommer 180 grammes de protéines de lait sous forme de lait, de fromage blanc ou de yaourt, de choses comme ça, c'est probablement pas bon pour la santé. Ça, on l'a déjà expliqué il y a 5 minutes, et puis dans d'autres podcasts, et puis sur le forum et sur le site, et faire une petite recherche là-dessus. Les protéines de lait sont accusées d'augmenter peut-être le risque de certains cancers, en particulier cancer de la prostate chez l'homme, cancer des ovaires chez la femme. Donc ce qui n'est pas génial. Par ailleurs, les produits laitiers amènent de grosses quantités de calcium dont on n'a pas forcément besoin. J'ai mis un article sur mon site récemment sur les besoins en calcium. En France, on recommande environ entre 1000 et 1200 mg de calcium par jour, alors que l'OMS, lui, ne recommande que 520 mg de calcium par jour. Donc, après, ça dépend à qui on se fie. Mais même 1200 mg de calcium par jour, avec 180 g de protéines laitières en poudre, on dépasse largement ce seuil, ce qui est probablement pas bon pour la santé. Trop de calcium, c'est pas bon. Il faut bien que le calcium, quand il est en excès, il aille quelque part. Il va avoir tendance à se déposer dans les tissus ou dans les reins, donc à provoquer des problèmes.
Et alors, si on prend des poudres qui ne sont pas issues des produits laitiers?
Donc, ce serait par exemple des protéines de soja ou des protéines d'œuf?
Ouais, protéines d'œuf ou de soja, ou ouais.
Il y a sans doute moins de risques. Par contre, il y a des risques inhérents à ce type de protéines. Notamment, par exemple, les protéines de soja, il faudrait voir comment elles sont fabriquées. Mais enfin, si elles sont pas cuites avant d'être mises en poudre, il y a probablement des lectines qui restent dans ces protéines qui peuvent provoquer des maladies aussi. On a vu que ça pouvait perturber le système immunitaire. Il y a aussi dans les protéines d'œufs en poudre le fait que ce soit des issus d'œufs de poules qui sont élevés en batterie ou en tout cas en général qui sont pas dans des bonnes conditions d'élevage, c'est pas des poules issues de l'agriculture biologique. Donc c'est pas très bon en termes de qualité. Après, pour la santé, dans l'absolu, c'est probablement moins nocif de prendre des protéines d'œufs que de prendre des protéines de lait. Mais au niveau du goût, c'est beaucoup moins agréable, comme le disent beaucoup de gens. Et puis c'est moins pratique aussi, ça se digère un peu moins vite. Donc
dans tous les cas, prendre trop de protéines en poudre n'est pas bénéfique, au contraire.
Non, c'est pas idéal, il y a pas.
Comme d'habitude, c'est une question d'équilibre et de pas surdoser, quoi.
Oui, il y a pas, disons qu'il y a pas d'intérêt particulier à faire ça. Pourquoi le faire s'il y a pas d'intérêt? Moi, j'en vois pas. Faut avoir une alimentation de base avec des aliments solides et les protéines vont être là au moment stratégique pour permettre d'avoir ce qu'on ne peut pas apporter de manière solide. Donc, par exemple, juste après l'entraînement, si on veut 5 minutes après sa séance prendre des protéines, manger son poulet à la salle, c'est pas évident. Donc là, les protéines en poudre sont vraiment utiles. Si on veut aussi prendre des protéines pendant l'entraînement, c'est encore plus impossible de manger. Donc là, les protéines en poudre sont utiles. Juste avant, c'est pareil. Et puis après, quand on est en déplacement dans la journée, ça peut être utile d'avoir un petit peu de protéines en poudre. Mais sinon, pour les repas principaux, il faut essayer d'avoir des aliments solides en termes de... Bon, putain, t'as de ça, c'est quand même plus naturel et puis... et c'est mieux, quoi. Donc... voilà ce qu'on peut dire déjà sur la consommation de protéines en poudre. Ensuite, deuxième question, 200 g de protéines issues de chair animale, donc par exemple viande ou poisson, ou 200 g issues de whey, sont-ils équivalents pour la santé du corps?
On vient un peu d'y répondre.
Par ailleurs, je peux rajouter à ça qu'il y a eu des études qui ont montré que les protéines, on en a parlé dans des podcasts précédents, quand on les mange, quand on les digère, elles sont découpées en peptides, et les peptides, donc qui sont un ensemble d'acides aminés, peuvent avoir des actions directes dans l'organisme, et en particulier les protéines du poisson, par exemple, seraient favorables à la santé des vaisseaux sanguins, en faisant baisser un petit peu la tension artérielle. Donc manger 200 grammes de poisson est sans aucun doute meilleur pour la santé que manger 200 grammes de viande rouge. Et c'est aussi probablement meilleur que de manger 200 grammes de protéines en poudre de whey protéines, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que, comme on vient de le dire, c'est bien d'avoir une alimentation basée sur des produits solides et d'utiliser les poudres pour compléter son alimentation, voilà. Et puis il y a pour certaines personnes qui voudraient mieux qu'ils évitent les protéines laitières au maximum. Donc
tu vois, c'était deux questions en une.
Oui, c'était deux questions en une, je confirme. Est-ce que j'ai bien répondu, Rudy?
Ouais, pour moi c'est assez clair. Hein.
Bon, alors à ton tour d'être clair. Entraînement, faut-il aller jusqu'au bout d'un cycle de force et tester son nombre de répétitions maximales, son maxi, ou est-il préférable de rester sur du 3 répétitions pour pouvoir enchaîner les cycles avec un petit déload.
Donc je trouve la question assez bizarre parce que en général quand on fait un cycle force, qu'à là particulièrement quand on demande de tester son maxi, c'est qu'on prépare une compétition de force. Et donc dans ce cas-là, bah, on va faire son maxi à la compétition. En dehors de si on ne fait pas de ce cas de compétition, si on n'en fait pas de compétition, il n'y a aucun intérêt à tester son maxi. C'est plutôt même très assez dangereux, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Et donc effectivement, on peut rester sur du 3RM en fin de cycle. Après, enchaîner les cycles, oui, mais après, de toute façon, une fois qu'on a été au 3RM, on va devoir enchaîner sur un cycle en série plus longue pour reconstruire, comme j'explique dans l'article Muscle et Force, pour reconstruire une base aussi bien musculaire que technique, afin de pouvoir remonter un peu plus haut sur son 3RM, donc sans être sur du 3RM. Tu vois, je sais pas qui c'est qui pose la question, mais on peut pas enchaîner un cycle force, donc tel qu'on l'entend habituellement, donc à partir de 6 répétitions jusqu'à donc une répétition, et enchaîner coup sur coup, quoi. C'est un moment, ça va plus monter, et puis on va avoir mal partout, et puis c'est la stagnation, et puis c'est la déprime, et puis c'est la fin. Donc, oui, si on fait pas de compétition et qu'on teste pas son maxi en compétition, il n'y a aucun intérêt de faire un maxi. On peut se tester même sur un 5RM, hein, ça suffit largement. Après, tout dépend, voilà, de pourquoi on fait ce cycle force. Et après, bah, une fois qu'on a progressé, on a fini son cycle, bah, on repart sur un cycle du début. Donc, sur au moins 12, 14, 16, 20 semaines. Pour revenir un peu plus haut, si le but, encore une fois, est de ne prendre que de la force. Mais et donc un petit point sur le déload, donc je vais en parler normalement dans un article qui devait sortir. Fabrice est en retard, il l'a pas encore mis en ligne, où on parle du déload, donc avec l'entraînement du West Side. Donc vous pourrez lire exactement ce qu'est le déload, donc là-dessus.
Très voilà, bien. Bon bah c'est bien Rudy. Et puis on va finir avec une question diététique. Est-il concevable de faire un ou deux mois de diète pendant son année de force quand on commence à se sentir lourd? Est-ce que la personne qui pose cette question a déjà fait un régime? Là est la vraie question, parce que quand on fait un régime, on perd de la force. Si on est en plein cycle de force et qu'on fait un régime, on risque de perdre tout ou partie de tout le travail qu'on vient d'effectuer, ce qui est quand même pas le but. Donc faut absolument éviter d'avoir à faire un régime quand on est dans un cycle de force ou dans une année de force, peu importe la durée de cette période. Il vaut mieux apprendre à progresser lentement sans gagner trop de poids corporel pour rester dans sa catégorie plutôt que de faire une prise de masse massive et ensuite être obligé de faire un régime.
J'ai pas non plus trop compris la question, parce qu'en général, prenons son année de force, donc c'est-à-dire qu'on est dans une catégorie à poids de corps et donc qu'on est au poids de corps, il n'y a pas à se sentir lourd. Là c'est mélanger un peu tout, quoi. Soit on fait de la force et dans ce cas-là on est à la catégorie de poids de corps, donc si on en monte 93, on est à, je sais pas, imaginons 90 kilos et qu'on se sent lourd, bah c'est pas grave, hein. Il reste 3 kilos à prendre aussi si on veut. Il n'y a pas 3 kilos à perdre, parce que le but c'est d'être plus fort. Donc en fait la question est assez bizarre. Donc ça rejoint ce que tu dis, quoi. Si on fait de la force, faut pas faire de régime, hein, surtout pas. C'est la pire chose à faire pour progresser en force, hein.
Après, quand on est, quand on s'entraîne pas pour faire de, bah, quand on est hors saison, on va dire, ça peut être bien de faire une prise de masse pour essayer de dépasser un palier en termes de force. Mais après, il faut quand même bien savoir gérer son régime. Enfin, ça fait partie de, c'est pour ça d'ailleurs que la prise de masse dans mon bouquin est avant tout conseillé comme stratégie de niveau avancé, parce que pour la plupart des gens, ce sera pas, ils arriveront au final pas à en tirer un bénéfice important. Mais sinon, pour les autres, ça peut être bien de faire une prise de masse qui donc est forcément suivie d'un régime. Mais faut pas faire ça alors qu'on a, faut avoir l'habitude, faut pas goupiller ça juste avant de faire son concours et puis se retrouver tout mou sans force, quoi.
J'ai même remarqué que quand on se sent lourd, on est fort en général. Quand on se sent bien lourd, on pousse, hein, la barre nous écrase moins, tout va bien. Donc après c'est vrai qu'il y a certains compétiteurs qui sont un peu plus lourds hors saison, donc comme tu dis, mais ils sont plus lourds de 1 ou 2 kilos, et puis ils font attention la dernière semaine, et puis en général il y a le stress et compagnie, ça aide à perdre, et puis ils sont au poids. Mais c'est pas un régime, c'est pas une diète, quoi. C'est juste le stress, et puis ils mangent un peu moins extrait pour être au poids, puis sur quelques jours, bah, il n'y a pas de perte de force, quoi.
Ouais, et puis surtout, si on est amené à faire un régime comme ça en pleine saison, c'est super mauvais pour la performance, mais aussi pour les articulations. On va augmenter le risque aussi de se blesser. Enfin, c'est vraiment pas bon, quoi.
Donc voilà, la réponse est non. Nous ne conseillons pas de faire un ou deux mois de diète quand on fait de la force.
Ouais.
Surtout pas. Et donc, ça me fait rebondir juste sur un petit point.
Oui.
Là, je suis en train d'écrire un nouvel article, donc c'est pareil, sur un entraînement de programme de musculation, le Cube Training. Et donc, donc c'est un truc de power aussi à la base. Et donc, le mec, là, il s'appelle Brandon Lilly. C'est assez rare que les power en parlent de la diététique et de la nutrition. Et il dit justement, lui, avant, il faisait pas du tout attention à son alimentation. Et il ressemblait pas à un mec qui poussait de la fonte. Et donc, maintenant, son truc, c'est de dire, si on fait de la muscu, c'est aussi bien pour ressembler à un mec qui soulève des poids. Donc, autant bien manger toute l'année et pas faire comme la plupart, malheureusement, des gens et des gens qui font de la musculation et encore plus du power, manger n'importe quoi et ne pas ressembler à un mec qui soulève des poids. Et en plus, il dit qu'il est meilleur, le mec, depuis qu'il ressemble à un mec qui soulève de la fonte. Ça, c'était marrant, j'avais envie de dire ça.
D'accord. Moi aussi, j'ai une petite anecdote pour... Parce que tu te rends pas compte, Rudy, et puis nos auditeurs non plus, mais plus tu parles, plus Akuma s'endort. Juste à côté.
Attends, il dit ça juste avant le podcast. Julien a fait un gros plan sur Akuma en webcam et lui a fait un gros bisou.
Oh, ça devait rester entre nous.
Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. T'as quelque chose à rajouter, Julien?
Ben non, alléluia.
On a fait le tour, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions donc sur le forum Super Physique. C'est la rubrique entraînement, donc c'est pas un peu partout, c'est vraiment dans le topic fait exprès, sinon on s'y retrouve pas.
Ah si, j'ai une anecdote en fait, oui, je viens d'y penser. Je sais pas si vous avez vu, il paraît que Joe Wilfried Tsonga fait un régime sans gluten. T'as vu ça ou pas?
J'ai vu que t'as mis ça à 1h du matin sur Facebook.
Ah oui, parce que j'y ai pensé.
Parce que tu dors pas la nuit.
Non, c'est parce que j'y ai pensé surtout, mais c'est marrant parce que je ne le savais pas. Alors j'espère qu'il va gagner.
J'espère.
Bah non, mais apparemment il est plus en forme.
Ah bah c'est sûr. Hein.
C'est bien.
Bah ça, on ne doute pas trop. Bon, toi, j'ai vu que t'avais mis ça sur ton Facebook. Et puis j'ai regardé l'heure à laquelle tu l'as mis, j'ai dit putain, 1h du mat.
Bah tu dormais pas non plus, manifestement.
Non, j'ai vu ce matin, j'ai vu. Je me connecte sur Facebook vers 9h et je vois, a été mis il y a 8h. Je dis bon, il dormait pas. Donc voilà. Bon, fin des conneries. On vous laisse maintenant. Et donc, bonne écoute à tous sur Super Physique et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.